Vous êtes sur RTL.
7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Oui, première prise de parole depuis cette nouvelle année. Bonjour à vous Geoffroy Roux-de-Bézieux. Un mot d'abord sur ce paradoxe. On dit que la crise des Gilets jaunes est une nouvelle lutte des classes, mais en fait on ne voit pas de banderole anti-patron, il n'y a pas de grève, les manifestants ciblent les quartiers bourgeois, ce président des riches, et épargnent les grands patrons. Ça vous surprend ?
Non, enfin ça peut surprendre parce que c'est la preuve qu'il y a un mouvement social aussi important et qui ne soit pas tourné vers les entreprises, les grands ou les petits patrons d'ailleurs. Mais au départ, c'est une colère fiscale, une colère d'automobiliste, une colère fiscale. Et les patrons, et en particulier les petits, sont aussi victimes de ce ras-le-bol fiscal. D'ailleurs, tout au départ, avant que le mouvement dégénère, il y avait sur les ronds-points, des patrons, des indépendants, des patrons de PME, bon, qui sont partis parce que le mouvement a dégénéré. Donc le ras-le-bol fiscal, il est partagé dans un pays où il y a 46 ou 47% de prélèvements obligatoires, et on est champion du monde.
Mais c'est vrai
donc,
que
c'est pas étonnant.
C'est la crise de ceux qui gagnent pas beaucoup, c'est la crise de ceux qui ont des problèmes de fin de mois, versus, si on peut dire, contre les bourgeois qui vivent bien, on le sent bien ça dans le débat. La question qui est posée plus largement, du coup, c'est est-ce que les grandes entreprises répartissent suffisamment les richesses ?
Est-ce que les entreprises, il ne faut pas toujours opposer les grandes et les petites entreprises. Donc c'est une vraie question. Donc d'abord, pour participer à la sortie de crise, on est prêt, j'ai envie de dire, à participer à l'effort de guerre. On va essayer de verser cette fameuse prime exceptionnelle, ceux qui peuvent le faire, enfin les entreprises qui peuvent le faire.
Vous savez combien d'entreprises ils sont prêtes ?
Très difficile à dire. En 2011, il y avait 10% des entreprises qui l'ont versé. Vous savez qu'il y a eu une prime en 2011, un peu sur le même modèle, mais plus contraignante. Là, j'espère que ça sera plus. Certainement les grandes entreprises, il y a beaucoup de grandes entreprises qui l'ont annoncé, hein, vous l'avez vu. Pour les plus petites, ça dépendra vraiment
c'est
de la situation.
Difficile. Pour les PME, c'est frustré. Ces salariés-là, des PME, des petites entreprises, elles risquent d'être frustrées justement
ceux
par rapport aux salariés
prime,
des grandes entreprises.
Sont frustrés. Mais vous savez, il n'y a pas de cagnotte cachée. C'est-à-dire que si les entreprises avaient des excédents de marge et de trésorerie, elles l'auraient partagé. Alors sur la question importante du partage de la valeur ajoutée, première chose, c'est que c'est la France qui répartit le mieux les richesses entre salaire, investissement et rémunération du capital.
Par rapport à quoi ?
Par rapport à la moyenne de l'OCDE. Bon, la vraie différence avec le reste, c'est le poids de l'État et des impôts. Et quand vous regardez sur les 20 dernières années, la courbe de répartition, elle s'est déformée au profit de l'État. Celui qui a pris le plus de l'augmentation des marges des entreprises, ce n'est pas l'investissement, ce n'est pas les dividendes, ce n'est pas les salaires nets, c'est les salaires bruts et les impôts.
Des dividendes, un mot, les dividendes, puisque vous parlez de courbes qui montent. Il y a un chiffre qui va peut-être animer les ronds-points. C'est celui que révèlent les échos ce matin. 57 milliards d'euros versés aux actionnaires des grandes entreprises l'an dernier. Record depuis 10 ans. Pardon, mais en langage familier, qu'est-ce que vont se dire certains ? Les entreprises se gavent.
Alors
les
actionnaires se gavent. Vous oubliez de préciser un chiffre important. C'est qu'entre 2007, depuis 10 ans, et 2017, les dividendes, ils ont baissé fortement. Les salaires, ils n'ont pas baissé. Donc, effectivement, on est revenu au niveau de 2017. Ce qui compte, ce n'est pas l'augmentation entre 2016 et 2017, c'est de regarder sur 10 ans. Sur 10 ans, la part des dividendes n'a pas augmenté, elle a même légèrement baissé.
Oui, mais les entreprises, est-ce qu'elles ne sont pas obsédées ? Est-ce que ce n'est pas une question quand même qui doit être posée ? Elles ne sont pas obsédées par la rémunération des actionnaires ? Est-ce que ce n'est pas un critère de valeur qui finalement efface les autres ?
Elles ne sont pas obsédées, non ?
Est-ce qu'il faut une réflexion ?
Oui, on est prêt à ouvrir ce débat. D'ailleurs, dans le grand débat, alors s'il a lieu, comment il a lieu, on sait pas.
Vous avez des doutes ?
Bah écoutez, je lis la presse comme vous et j'écoute la radio comme vous, mais nous on est prêts à participer à ce débat, on est prêts à ouvrir nos comptes, même dans les entreprises. Moi j'ai demandé à mes adhérents de participer à ces débats, d'aller collectivement avec les autres organisations patronales, expliquer ce qu'on paye comme impôt, comment on répartit la richesse, quand une entreprise fait de la marge, comment elle le fait, c'est simple, hein, vous savez l'économie c'est assez simple, gagner de l'argent en vendant plus cher ce que vous avez fabriqué, puis après il y a la marge, vous la répartissez en trois temps, les dividendes, pour rémunérer le capital, les salaires, les investissements. Et puis il y a un quatrième inconnu, qui est celui qui pose problème en France, c'est l'État. La réalité, c'est quoi ? C'est qu'on dépense 57% de la richesse publique, de la richesse privée dans le public. Donc c'est ça le sujet.
Oui, mais le sujet, c'est aussi votre responsabilité. Pardon, Ford n'est pas une grande entreprise française, mais c'est une grande entreprise tout court. Et finalement, elle est le symbole du capitalisme. Or, elle décide de fermer une usine à Blanquefort pour mieux rémunérer les actionnaires. C'est ça la réalité du capitalisme aussi aujourd'hui.
Alors écoutez, je ne veux pas me prononcer sur le dossier de Ford. Je sais que c'est en cours d'instruction, puisqu'il y a discussion avec Bruno Le Maire qui se propose éventuellement.
Vous ne voulez pas vous prononcer part... Vous ne voulez pas condamner ce type de.
Mais
décision.
Je ne connais pas le dossier. Je ne sais pas pourquoi la décision a été prise. Ford n'a pas voulu communiquer. Je trouve ça totalement dommage, parce qu'effectivement, il faut expliquer aux Français pourquoi telle ou telle décision est prise. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'il fasse juger le capitaliste sur le dossier de Ford, ça me paraît un peu réducteur.
Sur la question salariale, puisque c'est finalement ça, au bout du compte, qui intéresse aussi nos auditeurs, est-ce que vous êtes prêt à faire des efforts au-delà de la prime? Est-ce que cette histoire de cette question salariale, d'abord, elle doit être dans le débat, dans ce débat national auquel vous allez participer? Et puis, est-ce qu'il faut faire des efforts pour mieux rémunérer?
Elle doit être dans le débat au même titre que la marge des entreprises, au même titre que la fiscalité des entreprises. C'est un tout. Pour pouvoir payer des salaires, des augmentations de salaires, il faut qu'on gagne de l'argent. Donc oui, on est prêt à ouvrir les livres, si vous voulez. Moi, je pense que la transparence...
Ouvrir les livres, ça veut dire...
Ouvrir les livres des entreprises, expliquer comment une entreprise, ça fonctionne.
Vous pensez que les Français, parce qu'ils comprendront comment ça fonctionne, ils accepteront ce qu'ils considèrent être comme une injustice sociale?
Mais je ne crois pas, que vous l'avez dit en entrée de votre interview, que ce soit nous qui soyons les accusés. Ce qu'ils considèrent comme une injustice, c'est le montant des impôts qu'ils payent et le fonctionnement de l'État. Et il faut revenir à la base de cette crise. Hein. Au départ, qu'est-ce qui a démarré sur cette crise? C'est la taxation du diesel, c'est les impôts. Et je vous souviens, vous souvenez-vous des premières remarques, un pognon de dingue qui ne marche pas. Ils considèrent que l'État ne fonctionne pas.
C'est Gérald Darmanin ici.
Exactement. Mmh. Donc c'est ça qu'il faut, il faut remettre tout en cause. Il faut remettre tout en cause.
Donc vous appelez une remise à plat totale de la redistribution, du principe de redistribution du système en France.
Il y a quand même un fait qui est indiscutable. On est le pays qui redistribue le plus. Ça c'est factuel, c'est le chiffre de l'OCDE. Et c'est là où le sentiment d'injustice est le plus élevé. Ça pose quand même un petit problème. Donc oui, on est prêt à le discuter.
Alors, est-ce que vous êtes prêt aussi à discuter du bonus-malus? Aujourd'hui reprennent les discussions sur l'assurance chômage. Au MEDEF, justement, dans votre organisation, il s'agit de lutter contre la précarité. Le gouvernement souhaite ce bonus-malus, c'est-à-dire faire payer les entreprises qui abusent des CDD et récompenser celles qui sont les plus prudentes. Est-ce que vous êtes toujours contre?
Oui, on est contre. Pourquoi?
Vous ne bougez pas.
Un mot juste sur le diagnostic quand même. On reconnaît volontiers qu'il y a un problème avec les contrats courts, enfin les CDD courts de moins d'un mois, qui ont fortement augmenté depuis 10 ans. Pourquoi ils ont augmenté? Parce que la visibilité des entreprises sur leur carnet de commandes, sur leur chiffre d'affaires, se réduit. Et donc les contrats sont de plus en plus courts. Il y a deux solutions. La solution du gouvernement, c'est taxer, taxer, taxer. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas plus de CDD, il y aura juste moins de CDD, donc moins d'emplois. Nous, ce qu'on va proposer cet après-midi, sans rentrer dans les détails, c'est de s'occuper des gens. Puisqu'effectivement, il y a...
Et c'est des logique. Gens qui sont voilà.
Comment est-ce que ces gens qui enchaînent des contrats
d'un
courts,
jour, d'une semaine...
De quelques jours, on peut les aider à rentrer dans un emploi plus long. Pour vous donner un exemple très simple, donner une priorité d'embauche en CDI aux gens qui ont enchaîné des CDD dans la même entreprise.
Au bout de combien de CDD?
Au bout de 2 CDD, le premier CDI qui est proposé, c'est les CDD répétitifs qui auront la priorité. Bon, on a un certain nombre de propositions qu'on va faire cet après-midi.
Et pourquoi ça ne marche pas déjà comme ça?
Parce que ce n'est pas obligatoire, donc on peut le rendre obligatoire. Donc il y a des choses sur lesquelles on va essayer de travailler cet après-midi. Mais retenez juste une chose, si on taxe plus les contrats courts, ça a déjà été essayé, il y aura juste moins d'emplois.
Mais donc les contraintes que vous voulez quand même ajouter aux chefs d'entreprise, elles vont favoriser l'emploi de longue durée? Puisque c'est ça l'enjeu.
Elles vont permettre aux personnes, sans changer la nature des contrats, de passer grâce à des mesures techniques de CDD répétitifs au CDI. Mais on ne changera pas l'économie. Ce qu'il faut retenir simplement, et c'est il faut le prendre en compte, c'est que l'économie, elle a bougé depuis 20 ans.
Et votre position qui ne bouge pas, donc pas de bonus-malus, hein, est-ce que pas de bloquer les discussions, vous ne prenez pas un risque là?
Écoutez, je ne sais pas si on prend un risque. Nous, on a un mérite de la stabilité dans un gouvernement qui change d'avis toutes les deux minutes.
La stabilité, ça peut être l'immobilisme,
Ça peut être l'immobilisme, de temps en temps, c'est au moins une preuve de constance.
Oui, enfin, l'éloge de la constance, je vous le dis,
entre la constance
et l'entêtement. Justement, sur la taxe d'habitation, on n'y comprend plus rien. Bruno Le Maire a répété hier qu'il fallait aller jusqu'au bout de la réforme. Et hier soir, l'Élysée dit non, mais ce sera dans le grand débat. Et on est prêt à revenir finalement sur le principe de la suppression pour les 20% les plus aisés.
Je n'y comprends pas plus que vous, je crois qu'il faut demander à Bruno Le Maire.
Ça traduit quoi? Un problème avec Bruno Le Maire ou un problème
de rentrée fiscale pour le gouvernement, je ne sais pas ce que ça traduit, mais par pitié, il faut de la stabilité en fiscalité. Quel que soit le choix du gouvernement, il faut qu'il s'y tienne.
Ils s'y tiennent, c'est-à-dire ils s'y tiennent.
Mais qui ne changent pas toutes les deux minutes de politique fiscale. Vous savez, l'économie, c'est la confiance. Et la confiance, il y a besoin de stabilité.
Vous avez eu un contact, vous, avec le président Macron ?
Pas plus que Laurent Berger.
Ouais. Et ça, c'est un problème ? Vous pensez
Écoutez, c'est le choix du président de la République. Il est élu. Moi, je préfère appeler Laurent Berger et discuter avec les syndicalistes. Au moins, ça fait avancer les choses.
Ouais. Et le gouvernement, l'Élysée, il n'appelle pas parce que quoi ? Parce qu'il pense qu'il peut régler ça tout seul sans vous ?
Écoutez, demandez-lui.
C'est une erreur ?
Demandez-lui.
Mais ça pourrait être une erreur ?
Je pense que les partenaires sociaux ont un rôle à jouer dans la sortie de crise.
Merci beaucoup, Geoffroy Roux-de-Bézieux, d'avoir été ce matin sur RTL.
Nous sommes le pays qui redistribue le plus et où l'injustice est perçue comme la plus forte. Le problème, c'est le montant des impôts. Dire le président du MEDEF. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Nous nous retrouvons Cyprien Signy dans un tout petit instant.